vais prolonger d'une autre manière, mais je pense qu'il y a pas mal de complémentarité. Mais je vais quand même réexpliquer un petit peu d'où je parle. Donc cette structure, cette association, Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises, elle réunit des entreprises et des associations d'économie sociale et solidaire. Donc il y a 130 membres. Elle occupe aussi une vingtaine, 20 à 25 travailleurs et travailleuses. Et elle a mis en place un fonctionnement assez horizontal depuis plusieurs années. Donc, elle réunit à la fois des associations et des coopératives. Et en Belgique, les nouvelles ne sont pas très bonnes. D'un certain point de vue, le cadre a changé, notamment avec un changement législatif important, avec un regroupement dans un même code, du code des sociétés et du code des associations. Donc, auparavant, il y avait une loi de 1921 qui existait pour les associations, qui était historique et qui délimitait ce qu'étaient les associations. Et puis ici, ils ont voulu faire une réforme du code des sociétés, ils ont voulu simplifier. Et tout en simplifiant, ils ont mêlé finalement les deux objets que sont à la fois les associations et les sociétés. Alors c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, elle est un peu à la frontière. Donc par certains côtés, ça peut avoir tout sens, mais c'est quand même un signal plutôt négatif que nous, on lit derrière ça. Donc je rejoins tout à fait Jean-Michel sur la définition du managérialisme, ce mot en isme, qui est en fait une extension à tous les domaines de la vie sociale de la gestion. C'est quelque chose qu'on observe évidemment beaucoup dans nos vies quotidiennes, dans nos associations. Et du coup, sur ce sujet, pour préparer, j'ai pris cinq petites situations que je vais vous décrire. Et ces situations me mettent un peu sur la piste d'une action possible, d'une riposte, d'une réaction, d'une réponse à une situation problématique. Voilà, donc à chaque fois, je vais vous présenter un petit peu, je vais essayer de vous décrire un peu une situation et puis vous évoquer rapidement la piste que ça me permet d'amener. Donc la première, elle est liée à la ville de Lille et au partenariat notamment avec la PES, c'est qu'à un moment donné, on a observé que l'Europe, des instances européennes et puis des financeurs commençaient de plus en plus à demander aux associations de pouvoir évaluer leur impact social. Donc on vous dit, ok, c'est bien vos activités, etc., mais l'impact, votre impact, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous produisez ? Au-delà de simplement ce que vous faites, vos activités, mais qu'est-ce qu'elles produisent ? Quel est l'impact ? Donc on a vu arriver cette nouvelle créature, en fait, qui est quand même issue plutôt du monde de la gestion et du monde financier. Et face à ça, on s'est dit, d'abord, on a commencé par critiquer. On a commencé par dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quel est le sens derrière ça ? Comment est-ce que vous allez faire ça ? Attention au transfert, effectivement, de méthodologie qui viendrait du monde de l'entreprise et qui serait soi-disant utilisable par tout le monde. Donc, on a commencé par déconstruire un petit peu. Et puis, on a été plusieurs structures à se dire, mais on ne peut pas juste critiquer. Derrière cette question de l'impact, c'est quand même une question que se pose toute association. Toute association se pose quand même, dès le début, je crois, cette question de qu'est-ce qu'on arrive à produire, quels sont les effets sur les publics que l'on cherche à soutenir, aider, travailler avec, etc. Donc c'est une question quand même importante. Le risque était évidemment le transfert de méthodologie toute faite. Et donc, à plusieurs, on a obtenu des financements européens dans un cadre transfrontalier Belgique, francophone et Hauts-de-France pour faire une recherche-action durant plusieurs années pour essayer de proposer, non pas des outils, parce qu'on se méfie assez fort des outils, justement, c'était dans notre critique, mais une démarche. Et donc, on a co-construit avec un ensemble d'acteurs et testé durant 2 ans une démarche que depuis lors on propose à des associations et à des entreprises. Cette démarche, elle est assez particulière. Elle repose sur la co-construction. et la participation de, voilà, d'une diversité d'acteurs au sein de l'association. Donc, on ne va pas faire notre évaluation d'impact juste avec la direction ou avec les gestionnaires ou avec une partie de l'équipe. Au début, il est nécessaire de, voilà, de réunir et de poser la question à l'entreprise ou à l'association, mais avec qui pourrait-on utilement faire une démarche d'évaluation d'impact ? Elle est inductive aussi, donc on part vraiment de ce que les personnes font, de ce qu'ils savent. Elle va lier des éléments qualitatifs et quantitatifs, donc on va essayer de sortir du tout aux chiffres. On insiste beaucoup sur le terme d'évaluer. Évaluer, ça veut dire donner de la valeur. C'est pas la même chose que mesurer. Donc la gestion, elle va évidemment nous orienter vers des indicateurs et donc vers de la mesure. Or, il y a toute une série de choses qui sont faites, qui sont produites par les associations, qui ne sont pas mesurables, mais qui peuvent être évaluées, qui peuvent être décrites, dont les liens, voilà, entre ce qui est fait, le public, le moment, les effets, attendu, inattendu, il y a une chaîne comme ça qui peut être décrite, et donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc on va essayer de montrer, y compris ce qui est difficilement mesurable. On va du coup produire quelque chose qui est très adapté à chaque association. Donc c'est absolument pas des outils qui sont reproductibles, enfin, ou utilisables. À la limite, c'est presque pas utilisable par l'association elle-même. Donc il y a un rôle très important d'un accompagnement, donc d'une personne qui va aider l'entreprise à mener sa démarche. Même si l'entreprise ou l'association d'économie sociale est à la manœuvre, donc ça demande beaucoup de temps de leur part, donc ils doivent investir du temps, ils doivent réfléchir, mais ils sont accompagnés par quelqu'un d'extérieur. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Ben, c'est pour deux raisons. D'abord, je crois qu'il y a des modes dont il faut se méfier, qu'il faut critiquer. Il y a aussi parfois des sujets qu'il faut, je crois, investir et travestir peut-être, ou renverser, ou transformer. Donc, ce sujet de l'impact social, de l'évaluation de l'impact, on aurait pu se dire non, oulala, ça c'est, on n'en veut pas, on n'en veut absolument pas. On a eu une autre approche qui a été de dire, ben, utilisons quand même le mot qui peut faire déjà peur, hein, impact, c'est un mot fort, un mot diagnostic, c'est lié à la médecine, impact, c'est lié peut-être à la...
Au bal.
Oui, à la balistique, j'allais dire. Donc, c'est un autre monde. Ce n'est pas forcément celui qu'on aurait peut-être choisi, mais voilà, c'est celui qui domine. Donc, on s'en empare et on en fait autre chose. Donc, à l'intérieur de ce cadre, on essaye de créer une autre manière, une autre démarche qui a du sens. Donc, ça, c'est la première chose, c'est la première piste que je vois. Et alors, la difficulté qu'on rencontre aussi, ben, c'est que beaucoup d'associations... alors qu'elles sont intéressées par un impact social, sont plutôt intéressées par des indicateurs et par de la mesure. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un constat, j'allais dire malheureux. Alors, je ne pense pas qu'on puisse juger ça. Je pense que chacun est maître de sa gestion, et notamment de ce qu'il a besoin. Mais en tout cas, on essaye de distinguer, de bien faire la différence entre mesurer sa performance au moyen d'indicateurs et évaluer son impact social au moyen d'une démarche co-construite inductive. Alors, ça, c'est la première situation dont je voulais vous parler. Et la piste, c'est de parfois investir des thématiques, mais les transformer de l'intérieur. Une deuxième situation, c'est que j'ai eu dans une vie antérieure une expérience dans les ONG de coopération au développement. Alors, si vous voulez voir des acteurs qui sont complètement noyés sous un ensemble de logiques de gestion et de méthodologie de projet, vous en avez peut-être l'expérience, allez voir, interroger des gens qui travaillent dans les ONG de coopération. En tout cas, en Belgique, mon expérience est vraiment terrible, avec les cadres logiques, avec les diagnostics, avec... les arbres à problèmes qu'il faut transformer, etc. Donc, c'est un milieu vraiment... Et, en fait, dans notre propre association, on développe un projet de ceinture alimentaire autour de la ville de Charleroi, donc, qui est un projet qui tente de mettre en lien des consommateurs, des producteurs, des transformateurs et des commerçants sur l'idée d'une alimentation locale, de qualité. respectueuse des producteurs et de l'environnement. Et on est financé par un organisme public wallon qui soutient l'économie sociale, mais qui soutient aussi les entreprises. Et en fait, on a buté sur une difficulté avec ce qu'ils appellent les KPI. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à cet objet bizarre, KPI. Donc, c'est Key Performance Indicators. Donc, c'est des indicateurs de performance dont je parlais avant, qu'il faut évidemment définir à l'avance, sur lesquels il faut qu'on ait un accord du financeur. Mais en plus de ça, dans les réunions qu'on a avec la personne qui suit notre projet, ces indicateurs deviennent l'objet d'un contrôle. C'est-à-dire qu'on va vérifier si les indicateurs qu'on a annoncés 6 mois avant, un an et demi avant, sont bien rencontrés dans le développement du projet. Et là, on rentre dans un paradoxe terrible, je trouve. D'abord, une bureaucratie incroyable, parce que évidemment, entre ce que l'on prévoit et puis ce qui arrive, il y a plein de choses qui vont changer. Tout projet local comme celui d'une centrale alimentaire est confronté à plein de situations qui demandent précisément de l'adaptation, qui demandent de s'appuyer sur des forces qui surgiraient, qui n'auraient pas été identifiées au début, et de contourner les difficultés qui, évidemment, vont apparaître. Or, la manière dont l'outil est imposé d'abord et puis mis en œuvre dans le suivi et dans le contrôle fait en sorte que ça devient impossible en fait d'atteindre le but qu'on avait. Ça crée aussi, ça c'est quelque chose vraiment qu'on a vécu, des difficultés de santé mentale pour les travailleurs qui ont à suivre un projet, à tenter de le développer dans un sens favorable aux valeurs que nous défendons, au public que nous essayons de soutenir, et puis qui se trouve confronté à cet interlocuteur qui vient des pouvoirs publics et qui crée autour de sa visite un contexte vraiment invraisemblable. Là où je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est que ces organismes qui viennent soi-disant du monde marchand, mais j'ai l'impression qu'aucune entreprise ne fonctionne comme ça. Même une entreprise du monde marchand, je pense qu'elle ne... En tout cas, des entreprises de petite taille, de taille comparable à des associations et à des entreprises d'économie sociale, elles ne vont même pas appliquer ça. Donc on est en train de subir des modalités de gestion qui n'ont fait leur preuve nulle part. Et donc là, ça devient pour moi de la domination, de l'imposition et du non-sens absolu. Soit dit en passant, un autre mot fort à la mode qu'on aime bien critiquer aussi parfois, c'est celui de l'innovation sociale. Bon, c'est du fait qu'il est tellement utilisé maintenant et qu'il est tellement exigé par tous les financeurs qu'il en devient pervers. Néanmoins, il peut quand même conserver un peu de sens. Et à nouveau, pour faire de l'innovation sociale, faut-il vraiment programmer à l'avance, au moyen d'indicateurs ? C'est la meilleure manière de ne pas, évidemment, créer d'innovation sociale. Donc, par rapport à ça, moi, je me demande... Donc là, c'était la description d'une deuxième situation. Et puis, j'évoque maintenant une piste. Je pense qu'il y a... Il y a deux pistes, peut-être. La première, c'est de sortir un peu d'une logique de pensée. Il y a un auteur, un philosophe qui s'appelle François Julien, qui a comparé la philosophie occidentale et la philosophie chinoise. Et en fait, la philosophie occidentale, elle est fort... programmatique, elle est fort instrumentale. Il y a un lien entre les moyens qu'on va mettre en œuvre et les finalités qu'on va atteindre. Donc ça, c'est le cadre logique en plein, quoi. Et c'est vrai qu'on est un peu façonné, on est quand même façonné, globalement, nos sociétés sont façonnées par ça. Et lui, il a trouvé dans la philosophie historique et traditionnelle chinoise un autre modèle qu'il appelle le modèle de la propension, qui est un modèle d'efficacité. Donc c'est aussi une manière de dire on va être efficace. On revendique une efficacité, mais elle est autre que instrumentale, c'est-à-dire on met en œuvre des moyens qui vont atteindre des fins. Donc il appelle ça la propension. Et en fait, elle met à jour, oui c'est ça, le lien entre des conditions et des conséquences. Donc elle va être basée beaucoup plus sur l'observation du moment dans lequel on est, de ce qui est en train de toute façon de se passer, et de comment... transformer les choses en... Parfois, c'est en n'agissant pas. Donc c'est aussi l'éloge du non-agir, l'efficacité telle que le voient ces auteurs chinois. Donc c'est aussi parfois non-agir, c'est l'effet indirect, c'est avoir une action beaucoup plus discrète, beaucoup moins héroïque, hein, parce que cette idée de mettre en œuvre des moyens au service d'une finalité, mais ça vous met aussi dans une position, c'est vous qui allez transformer la situation et la vie du public que vous prenez en charge, que vous aidez, enfin... Il y a là quand même une logique assez claire. Et donc, on est ici dans tout à fait autre chose. Et pourquoi est-ce que j'en parle ? C'est parce que je pense que c'est quand même des référents assez fondamentaux. Et donc, si on ne trouve pas d'autres références, je pense qu'il y a un peu un complexe d'infériorité aussi qui est présent dans les associations. Parce qu'on va dire, mais c'est plus compliqué que ça. Et en même temps, on n'arrive pas à le décrire. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une piste... importante, c'est, et d'ailleurs c'est ce qu'on cherche à faire avec l'évaluation d'impact social telle qu'on l'amène, c'est aussi d'arriver à décrire les processus, c'est-à-dire ce que les associations font, donc le lien entre des effets observés et vérifiés et la manière dont elles agissent. Donc essayer de lier les deux et de décrire, d'arriver à décrire ces logiques d'action, ces logiques d'efficacité qui sont bien présentes. Moi, je pense que toute association a, et les professionnels, les acteurs, les gens de métier ont vraiment un savoir et un savoir-faire, mais il est plus difficile à transmettre, il est plus difficile à décrire, il est très particulier aussi, il est situé à un endroit. Et donc ça nous met un peu dans une position, à tort, hein, d'infériorité par rapport à des outils qui sont transposables, qui sont facilement utilisables, qui suffiraient de télécharger et de mettre en œuvre. Donc on est là dans deux logiques, mais moi je pense qu'il faut vraiment travailler à ça et arriver à sortir grandi de ce travail. Donc ça c'est la deuxième situation. La troisième... c'est que sur base de cet exemple que je vous donnais d'un financement avec des KPI, on s'est dit mais il y a quelque chose qui se passe en matière de financement. Il y a une tendance assez lourde à une évolution des financements vers des financements par projet, des financements de plus en plus exigeants en termes de rapportage, des financements moins importants en termes de financement, donc ça vous force à multiplier les sources de financement. Et donc, en termes de gestion et de justification, vous commencez à prendre de plus en plus de temps à vous justifier, en plus de manière différente, puisque chaque financeur a évidemment sa logique. Et donc, on s'est dit, mais en fait, nous, on subit ça, on le vit, mais est-ce que c'est le cas autour de nous ? Et donc, on a lancé une enquête avec une centaine d'associations qui ont répondu. Alors, on est en train d'analyser les résultats. Les premiers résultats confirment, évidemment... ce que vous connaissez sans doute et ce qu'on dit là. La piste sur laquelle ça nous met, c'est que donc cette enquête, elle pose plusieurs questions et elle pose notamment des questions sur les effets au sein de l'association aussi, sur le temps qu'on passe à faire ça et sur les effets en termes de santé, tout simplement, mentale. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que ça ne provoque pas des burn-out ? Et donc, on pense qu'avec cette enquête, on a vraiment quand même là quelque chose d'intéressant et de fort qu'on aimerait utiliser dans un dialogue avec les financeurs. Donc, la Wallonie, c'est une petite région. On a un rapport quand même assez direct aux politiques, aux décideurs et aux autorités publiques et à l'administration. Donc, on va utiliser un petit peu ce lien qu'on a pour créer un espace de dialogue, leur renvoyer un petit peu les effets de ce qui est en train de se passer, et puis essayer de travailler à identifier, à un dialogue, et à identifier finalement quand ils mettent en place ces mécanismes de financement et de justification, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'accorder quand même entre leurs besoins à eux, parce que évidemment c'est des financements publics, donc il y a évidemment une justification qu'on ne remet pas en question. Il est logique de devoir se justifier, et eux doivent le faire, et nous devons jouer un rôle. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'accorder sur des manières, des points d'attention, voilà, des processus et des démarches qui seraient utiles aux deux. Quel gain de temps si, à la limite, se justifier, ça peut être utile pour l'association aussi. Et si ça convient aux financeurs publics, eh bien, on fait d'une pierre deux coups. Donc là, il y a une piste. Alors, c'est peut-être un peu utopiste de penser qu'on va arriver à changer les choses, mais en tout cas, c'est la voie dans laquelle on est en train de travailler, qu'on va s'engager, on est au début de ça, on veut recontacter les gens qui ont répondu à notre enquête, et puis leur proposer cette démarche, et puis créer des espaces, et puis on verra bien. Si ça ne marche pas, ben on peut passer à une autre dimension, qui est alors plus un plaidoyer, qui est de faire pression, quoi, d'utiliser les médias, enfin, faire une campagne. Enfin, donc ça, c'est une autre piste, mais on va commencer d'abord par un dialogue. La quatrième situation dont je veux vous parler, c'est vraiment du vécu à l'intérieur de l'association. Donc je vous ai dit, on est 20 personnes. Et ces 20 personnes sont des personnes assez passionnées, je crois, par ce qu'elles font. Et donc elles ont tendance à faire un peu plus, parfois, que ce qui est demandé ou que ce qu'ils ont décrit dans le projet. Je pense que c'est le cas quand même de pas mal d'associations, avec des gens qui s'investissent. Et donc, elles ne comptent pas, en fait, quand elles mettent en œuvre un projet qui est financé, elles ne comptent pas leur temps. Et pendant toute une durée de vie de l'association, ça a été possible. Parce qu'il y a des projets qui étaient parfois bien financés, donc financés confortablement, et puis d'autres qui l'étaient moins. Et donc, le fait de ne pas compter le temps qu'on a prévu pour mettre en œuvre un projet, bah, grosso modo, ça c'était possible, quoi. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de contrôle de gestion, en fait. On n'avait pas de mécanisme très poussé. C'était basé sur la responsabilité des personnes et aussi des collectifs. À l'intérieur de la structure, il y a des cercles. Et donc, ça s'organise, mais sans un contrôle très poussé. Et jusqu'au jour où, ben voilà, l'année passée, on a eu, pour diverses raisons, mais notamment celle-là, d'après nous, un déficit assez important, qu'on peut se permettre une année parce qu'on avait des réserves, mais dont, voilà, dont on doit sortir, parce que sinon, c'est la pérennité de l'association qui est mise en question. Et donc, une des réponses, c'est pas la seule, mais une des réponses, c'est de concevoir un outil de gestion. C'est-à-dire un outil qui met en rapport le temps, en fait, c'est un outil de gestion du temps, les moyens financiers, et qui doit permettre aux personnes de mieux programmer leur investissement sur tel projet lié évidemment au financement. Alors, donc ça c'est aussi un partage très à livre ouvert, je vous partage ça, voilà, c'est pas glorieux. En même temps, c'est aussi pour dire que la gestion, ben, il faut pas non plus en faire enfin c'est utile, la gestion est utile. La question c'est comment est-ce qu'on met en œuvre la gestion? Qu'est-ce qu'elle recouvre? Et dans ce cas-ci, la piste que je vois, ben, c'est de faire de la gestion l'objet de délibérations internes. C'est-à-dire que cet outil, il ne va pas être imposé en interne. On ne va pas dire aux gens, demain, voilà. Il va être construit collectivement, il va être... voilà, et donc, il faut expliquer pourquoi on met en œuvre, à quoi est-ce qu'il doit servir, peut-être limiter cette dérive potentielle. Et donc, ça veut dire qu'il faut en faire un objet de discussion, de délibération interne entre les travailleurs. À mon avis, c'est une des clés. Alors, une dernière situation et une dernière piste, c'est que on a découvert le travail de Philippe Hainaut, qui est un professeur de gestion à Paris, qui interroge beaucoup la gestion, notamment avec ce bouquin. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là. Solidarité et organisation, penser une autre gestion. Et donc lui, ben, il est prof de gestion, donc il ne remet pas la gestion, il ne reste pas que dans une critique de la gestion, il interroge comment en faire autre chose que effectivement la gestion marchande, comment éviter le transfert des outils et des méthodes et des visions du monde marchand vers les associations et l'économie sociale et solidaire. Et donc, on l'a rencontré, on a fait une interview. J'ai amené quelques petites publications qui sont là sur la table, si vous voulez, notamment une interview de Philippe Hainaut. Donc, ça nous a mis sur cette piste. Elles sont sur la table là-bas. Sur cette piste de faire de la gestion un objet de réflexion et notamment un objet d'une recherche participative. Donc, on est financé en éducation permanente, ce qui est l'équivalent de l'éducation populaire en France, qui est un type de financement assez intéressant parce qu'il est structurel. Et notamment, les outils de rapportage, le dialogue qu'on a avec l'inspection est vraiment un modèle, je crois, d'un dialogue entre pouvoir public et association. Parce que la visée est celle de l'éducation permanente, de la citoyenneté. Et donc, il y a une même visée. Et donc, il y a une cohérence, en fait, entre la visée, le soutien à des associations et la liberté associative aussi qui est laissée aux structures de faire des choix. Et notamment, depuis peu, il y a cette possibilité de faire des recherches participatives. Donc, plutôt que de faire des petits papiers comme ceux-là, qui sont des analyses qu'on écrit, alors elles sont basées sur des rencontres ou des interviews ou on puise dans les expériences des associations, mais c'est moins intense qu'une recherche participative. Donc on a lancé une recherche participative sur le thème de la gestion où on interroge avec 5 structures qui sont des associations petites, grandes, assez diverses. Il y a aussi des fédérations qui sont venues dans cette démarche. Et donc on a lancé un processus où on interroge la gestion. Mais on commence de manière très, très large parce que la gestion, c'est un thème qui évoque beaucoup de choses. C'est assez flou, en fait, la gestion, ce que ça recouvre. Hein. Ça peut couvrir la gestion des ressources humaines, la gestion financière, le financement, la gestion d'un projet, la gestion d'équipe. Donc, c'est un peu un macro-sujet. Et donc, on est en cours de la première année. Et donc, je pense qu'on va prendre un an avec une tournante. On passe chaque fois dans chaque association et on lui demande de décrire ses pratiques de gestion, les questions que ça lui pose, les difficultés qu'elle rencontre. Et il y a comme ça une connaissance, une interconnaissance qui se crée entre les structures, mais sur le thème de la gestion. Au terme de la première année, on espère prendre un sujet plus précis. Alors, on va prendre une question qui est problématique pour le groupe. Et puis, on va se remettre en route pour une deuxième année où on va essayer de trouver des solutions ou des réponses, disons, à cette question de manière participative. Et à la fin, on va devoir, ça c'est une contrainte, on doit publier quelque chose et on doit le mettre en débat public. Donc ça, c'est la piste que je voyais aussi par rapport à ça, c'est d'interroger la gestion, notamment sous l'angle de l'éducation populaire et surtout de le faire dans des démarches collectives, de ne pas rester seul avec ses difficultés, seul dans sa structure. Donc ça, c'est le premier cercle, c'est déjà d'en parler au sein de l'équipe. Parce que je pense que les personnes qui sont en charge de la gestion sont aussi un peu dans une solitude. En fait, elles sont spécialistes de ça et elles n'arrivent pas à transmettre ce que c'est la gestion, et notamment l'évolution des contraintes. Donc elles sont un peu seules. Donc si on n'y prend pas garde, elles peuvent aussi se trouver vraiment personnellement dans des situations vraiment pénibles. Donc ça, c'est le premier cercle, c'est en parler au sein de sa structure. Et le deuxième, c'est entre les structures. Parce qu'en fait, il y a des choses qui arrivent alors différemment, et on y répond différemment. Il y a des solutions différentes, il y a des bricolages différents. Mais le fait de les partager, de trouver des questions communes et des réponses communes, et puis de les mettre à nouveau en débat, je pense que c'est vraiment une piste porteuse pour faire face, effectivement, au managérialisme qui, est un véritable rouleau compresseur. Voilà ce que je voulais vous amener. Merci de votre